Alors voilà, on est en direct d'un navire de pêche de crevettes à Rivière-au-Nord. Alors aujourd'hui, on voulait savoir comment ça se passe, comment ça se prépare une saison de pêche à la crevette. Et on va discuter avec deux propriétaires de bateaux. Donc, nous avons Sébastien Paré qui est avec nous et Dave Coton. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Parce qu'on veut savoir à quoi on s'intéresse un petit peu, comment ça se prépare une saison de pêche. Parce que là, c'est beau, vous allez partir dans les prochaines heures. Alors, ça commence quand une saison de pêche à la crevette, là, avant que le navire soit prêt à partir, Sébastien?
Environ mi-mars, approximatif. Préparer bateaux, les engins, les machines, génératrices, tout l'approvisionnement aussi, commence à vérifier ça. Ça commence tranquillement. On start longtemps d'avance pour être sûr d'être prêt à temps.
Dave, lorsqu'on parle de préparer ça tranquillement, est-ce qu'on va visiter, parce que les bateaux ne sont pas à l'eau, là, on est stationné dans le parc industriel, c'est un peu ça. Est-ce qu'on va à bord avant ou on attend que...
Bien, on commence à préparer une saison de pêche quand la saison de pêche finit. Ça fait qu'à l'automne, on prépare déjà la prochaine saison de pêche. Mais puisque tous les appareils du bateau sont arrêtés pendant l'hiver... Bien, on doit justement au printemps, comme Sébastien vient de dire, début mars à peu près, on doit recommencer à redémarrer la mécanique, l'hydraulique, l'électricité, tous les engins, les appareils de navigation. Donc, début mars, on retourne pelleter puis on commence à mettre en marche les appareils.
OK, donc on fait fonctionner un peu le navire avant, quoi?
En plein ça, on branche l'électricité lorsqu'il est dans le parc industriel, c'est ça. Puis, dépendamment, c'est tout personnel, mais on met à l'eau aussitôt qu'on peut. Question de voir, justement, parce que dans l'eau salée, il y a plein de pompes puis plein d'appareils qui sont dus de fonctionner juste dans un coup lorsque le bateau flotte. Donc, aussitôt qu'on peut, on le met à l'eau puis on vérifie si ça fonctionne bien.
Sébastien, comment ça se passe, la mise à l'eau d'un navire?
La mise à l'eau, c'est on appelle ça un travel lift pour charroyer les bateaux dans le parc d'hivernage. Puis,
c'est ça. C'est une grosse opération?
Oui, bien, il faut faire attention. C'est pesant, un bateau. Ça pèse c'est plusieurs mille livres. Fait que c'est ça, là. C'est un bateau environ à l'heure et demie. Fait que il vient nous chercher un endroit qu'on est stationné pour l'hiver. Il nous met à l'eau, puis ainsi de suite. Les bateaux défilent.
Et puis, on fait ça à partir de quel moment, à peu près? Une semaine avant la pêche ou plus que ça?
Ça dépend. Ça dépend, je veux dire, des conditions de glace et tout. Okay. S'il y a beaucoup d'épais glace dans le quai, si les bateaux réussissent à sortir du trou. Quand les bateaux réussissent à sortir, bien, là, ils peuvent commencer plus de bonne heure. Ou... Habituellement, c'est 2-3 semaines avant le début de la pêche.
Bon, puis à partir du moment où c'est à l'eau,
ouais, ben là, on espère que le bateau va marcher à l'eau.
Oui, parce qu'il y en a un problème. Il faut le remonter, ça va pas bien.
C'est ça. On espère qu'il n'y a pas de voie d'eau, il n'y a rien. On vérifie les engins, génératrices, moteurs, comme David disait, l'hydraulique, puis tout. Quoi, le talon, on peut vraiment vérifier si tout fonctionne. Quand on est en cale sèche, c'est plus difficile, mais à l'eau, ça va bien. On peut confirmer que tout marche, puis c'est des bobos les réparer.
Est-ce que ça vaut cher, un bateau de pêche à la crevette, là?
Bien, c'est une question qui est très vaste parce qu'au Québec, on a une partie de la flotte qui est plus vieille. Comme moi et Sébastien, on a des bateaux de 25 ans à peu près. Puis il y a une vague de renouveau, là, dans les 10 dernières années. Il y a eu quelques constructions, donc les prix varient beaucoup. Mais reconstruire des bateaux équivalents à ce qu'on a, puis entre guillemets, c'est des petits bateaux, nous autres, comparé à ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même au moins 3 millions faire les nôtres. Donc des plus gros comme il se fait aujourd'hui, c'est des très gros prix.
La durée de vie d'un bateau, c'est combien de temps?
Ah, mon Dieu, un chalutier en fer, ça peut aller facilement, après moi, jusqu'à 40 ans.
Oh, oui.
Aisément, jusqu'à 40 ans.
Là, Sébastien, un coup qu'on a vérifié tout, donc, qu'est-ce qu'il faut préparer avant de partir?
Ah, mon Dieu,
Non, mais en fait, c'est que il y a plusieurs documents. Quand on a un propriétaire de navire, il y a le bateau, oui, il y a physiquement le navire à s'assurer que tout fonctionne bien parce que je sais pas pourquoi, quand on arrête de la mécanique, on dirait que ça la fatigue plus que de continuer à marcher. Donc, il y a toujours des petites surprises mécaniques qui apparaissent, puis il y a des soustractions dans le compte à faire. Mais au niveau des documents, il y a une multitude de choses qu'un propriétaire doit faire. C'est comme s'assurer que tu as tous tes permis de pêche au niveau de Pêche et Océan Canada. Tu dois contacter l'agence des douanes canadiennes aussi pour différents formulaires, la validité des brevets de navigation, l'inspection du navire si tu es dû pour le faire avec Sécurité des navires Canada. Tu dois t'assurer que tous tes papiers sont en ordre aussi, puis que tu actives des choses comme la boîte noire pour le tracking de Pêche et Océan Canada. Donc, nous, les propriétaires, on a aussi quand même une partie paperasse à faire.
Et puis, après avoir tout fait cette paperasse-là, bon, les employés, à partir de quel moment ça commence à arriver là, sur le navire?
Bien, la plupart du temps, les employés, c'est en même temps que nous. Tout le monde pèle ensemble, tout le monde travaille ensemble.
Vous avez combien d'employés à peu près en moyenne à bord?
Moi, trois. Ça, je suis pas mal là-dedans. Devant des bateaux, mais ça tourne autour de ça.
Avant de partir, qu'est-ce qu'il faut avoir à bord d'un navire? Vous partez pour combien de temps habituellement?
Ah, ben là, habituellement, c'est de 4 à 6 jours. Habituellement, même l'année passée, c'était un petit peu plus long. Mais ça prend beaucoup de nourriture, oui. On va dire. On est 4 gargots à bord, fait que ça mange.
Une épicerie, là, le coût d'une épicerie, c'est quoi à peu près, tant qu'on part?
La première est impressionnante parce qu'on part de rien, là, mais ben, c'est facilement quelque chose comme 600 à 800 $, ça dépend des bateaux, là, mais la première, elle doit être le fun à voir apparaître quand on arrive à l'épicerie pour un propriétaire d'épicerie, ouais.
Là, qu'est-ce qu'on mange à bord? Est-ce qu'on se fait des repas un peu comme à la maison? On entend dire que ça
vaut... Au printemps, c'est plus fou parce que c'est très intense comme activité de pêche. Donc, les repas sont, entre guillemets, un peu plus sur le pouce. On mange des choses énergisantes, mais plus type sandwich, casse-croûte. Mais dans la saison régulière, quand ça devient un peu plus modéré, on mange comme à la maison. Vraiment aussi santé qu'à la maison.
Là, vous êtes équipé à bord de cuisine? Comment c'est?
C'est la même chose. Il faut. C'est une petite maison, c'est pareil. Me dire, faut micro-ondes, tout est dedans. Il manque rien.
Bon, à part la nourriture, qu'est-ce qu'il faut mettre à bord aussi?
Bien, il faut mettre tout ce qui est relatif à faire fonctionner le bateau de pêche. Donc, c'est-à-dire du carburant, beaucoup de carburant, des milliers de litres. On va mettre aussi tous les équipements de sécurité pour s'assurer justement de la sécurité des hommes de pont. On a la plupart d'entre nous défibrillateurs, des épipènes. On a, tu sais, parce qu'on part, puis on est loin de la maison, on est loin de l'ambulance, puis tout ça. Même chose pour des équipements de rechange mécanique ou quoi que ce soit. On essaie d'être le plus débrouillard possible au large. On s'arrange pour avoir beaucoup de matériel pour éviter de rentrer.
Ça prend quand même, oui, des trousses assez bien équipées au cas où, là. C'est...
Ben, en plus, bien sûr qu'il y a des normes là-dessus. On doit correspondre aux normes de sécurité, mais au-delà de ça, pour assurer notre propre sécurité, oui, on a des trousses très, très équipées pour faire les premiers soins.
OK. On part à la pêche le 1er avril. Vous allez dans quelle zone, vous, Sébastien?
La plupart du temps, les gars, pas mal toute la flotte, ça commence par la zone Sept-Îles. Parce que, okay. Fait que de Rivière de Madière, la zone Sept-Îles, c'est pas mal la pointe de la Gaspésie à Sept-Îles. Même en haut de ça, c'est Port-Cartier.
Puis là, ça prend combien de temps se rendre là? Donc, le premier, le voyage en mer?
7-8 heures. Ouais, se rendre, ça dépend toujours ce qu'on voit. Mais on peut pêcher à 30 minutes du quai comme qu'on peut pêcher à une dizaine d'heures, 10-12 heures, dépendant.
Les premières, donc, la première pêche, vous allez où?
On ne sait pas encore.
C'est une question de feeling. Comme on le sent, on va aller faire un essai quelque part. Si ça ne fonctionne pas, on se déplace. Il faut toujours être en déplacement à la recherche du plus performant.
Est-ce que vous voyez la crevette? C'est un peu comme les gars qui vont à pêche avec leur radar, là?
Non, on ne la voit pas du tout. Nos échosondeurs, même si on est en 2017 et que la NASA est bien sophistiquée, les échosondeurs ne peuvent pas détecter ce petit crustacé-là.
Trop petit?
Oui, trop petit.
OK, donc on va un peu à l'aveuglette. Puis les filets que vous avez, que vous utilisez pour la pêche, est-ce que ça va prendre beaucoup de crevettes à la fois? Parlez-moi un peu de ça.
Un chalut, ça peut prendre, ça dépend toujours de la quantité qu'il y a dans le fond. Ça peut prendre jusqu'à 8-9 000 livres dans une poche, mais c'est pas l'idéal, mais ça peut aller jusqu'à là.
Est-ce que vous sentez ça quand vous attrapez là, les crevettes, là, non?
Non, on le sent juste quand ils arrivent à bord, on sent l'excitation. Non, on sent pas sur l'attraction, on sent rien de tout ça. Par contre, on a différents indices parce que la plupart d'entre nous, on a des senseurs électroniques maintenant sur le chalut. Et on peut avoir différents indices comme une perte d'ouverture ou quoi que ce soit qui nous dit ça va être un coup performant ou pas, là.
OK. Donc, on sait qu'on a de la crevette à un moment donné.
Oui, on a un indice que ça se peut que c'est pesant à bord, oui.
Ça peut prendre combien de temps pêcher, faire une capture de pêche de crevettes là, comme ça?
Le printemps, c'est plus court. La plupart du temps, les gars vont faire des petits tests à des places, des coups plus courts. Puis Ça peut aller 2-3 heures même. Il y en a que c'est plus court que ça encore, mais ça peut être 2-3 heures. 2-3 heures, 4 heures.
Quand vous pêchez comme ça, bon, on veut attraper de la crevette, mais est-ce que ça arrive qu'on attrape d'autres espèces? Vous parliez des petits poissons tantôt. Est-ce qu'on peut attraper de gros poissons? Est-ce qu'on peut attraper d'autres espèces?
Non, pas vraiment. Bien, on attrape des espèces qui sont de la grosseur de la crevette, des petites prises accidentelles qui vont passer au travers des barreaux de la grille. Autrement dit, le système de sélectivité qui fait en sorte qu'on ne capture pas de gros poissons pour éviter de gaspiller la ressource. Fait que non, oui, on prend rien d'autre ou presque rien d'autre que de la crevette ou, dans les dernières années, le petit sébasse qui, lui, est de la même grosseur que la crevette.
Il y a comme un filet en avant du trou, dans le fond, maillé, là, c'est ça?
En fait, c'est carrément une grille de plastique avec des barreaux. Ce qui passe au travers des barreaux va s'en aller vers la poche et il y a un évent. Les gens qui passent au travers glissent et retournent à la mer. Ils savent pas ce qui s'est passé. Il y a juste eu un 2 minutes bizarre dans leur vie. Là.
C'est bon, c'est bon. Puis là, on ramène à bord. Qu'est-ce qui se passe?
On ramène à bord, on relève le chalut, on embarque, on check ce qu'il y a dedans. Si c'est bon, on en revient de bord. Si c'est moins bon, on continue. Okay. Continue à chercher.
Est-ce qu'au début, on dit que c'est souvent de la plus grosse crevette? C'est tout ça, tout le temps?
Ouais. Le printemps, c'est important. Bien, on trouve ça important de ramasser les premières semaines d'avril. Des fois, on n'a pas la chance de le faire. Mais c'est important. La crevette est plus grosse. La crevette est raveuse. Fait que...
Ben oui, c'est ça. Le printemps, c'est pas juste par agressivité qu'on veut être là au 1er avril. C'est parce que c'est le temps de la ponte de la crevette, dont les plus grands rassemblements de crevettes sont assurés au printemps. Ça fait que si on veut se donner une chance pour pogner les meilleurs prix au débarquement, c'est en avril qu'il faut y aller, parce que c'est que les grosses femelles qui sont là ensemble. Donc, passé ça, les tailles sont mixées, puis on vient de commencer à diminuer sur les prix.
Bon, quand on dit de la grosse crevette, nous, là, ce qu'on voit à la poissonnerie, là, c'est pas la grosse crevette. Est-ce que c'est ça ou il y en a de la plus grosse?
Bien, la crevette nordique, c'est pas une crevette qui est de la même grosseur que les crevettes d'élevage qu'on fait grandir en 2-3 mois puis que ça devient en taille commerciale. La crevette nordique, c'est une crevette d'eau froide qui se développe très, très lentement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la plus goûteuse au monde. Mais oui, c'est une grosseur, une taille qui est beaucoup plus petite que ce qu'on retrouve dans les crevettes de cocktail. Mais rappelons-le, beaucoup plus goûteuse.
OK. Donc, ce qu'on a à la poissonnerie, là, ça ressemble pas mal à la grosseur.
Oui, mais ça dépend. Si on veut avoir que des... Parmi notre espèce qu'on pêche, parmi la crevette nordique, si on veut avoir que les plus grosses, bien, on paye un peu plus cher, puis on a une livre ou un kilogramme emballé, mais que les plus grosses, là, par exemple, les tailles de grandeur rassemblées. Puis les usines sont bien capables de séparer les tailles.
OK. Maintenant, parlez-moi un petit peu de la... là, on fait notre pêche. Ça dure combien de temps là, avant de remplir un bateau? Et combien on peut mettre de tonnes ou de livres là, dans un bateau?
Oh mon Dieu, pour remplir un bateau, ça peut prendre une journée. Puis de pêche, 7 jours, ça peut... Il n'y a pas un bateau de pareil. On peut ne pas le remplir. On peut rentrer avec même pas la moitié d'un voyage.
Puis là, un voyage, ça dure combien de temps, moyen?
Ben, c'est ça. C'est environ... C'est un site, on va dire, 4 à 6 jours. On ne sait pas encore. On n'a pas sorti encore, mais ça va donner 4 à 6 jours, normalement.
Puis, on peut ramener combien de livres de crevettes à ce moment-là?
Bien, ça dépend des bateaux. Ouais. C'est nous autres, comme moi puis deux, pas mal la même size. Ça peut être soit des 15 000, environ plein. Soit des 10, soit des 15 000. Tandis qu'à d'autres, ça peut aller jusqu'à 150, quasiment 200 000. Fait que
Puis là, il faut qu'on conserve ça avec de la glace?
Oui, exactement. En fait, ce qu'on ne veut pas congeler à bord, c'est pas la méthode qu'on utilise, c'est qu'on va garder à l'état le plus frais possible. C'est-à-dire, de la façon qu'on l'a sorti de l'eau, on veut que ça ressemble le plus possible à ça quand on va le débarquer à l'usine. Débarquer, c'est-à-dire au quai pour que ça soit acheminé à l'usine. Donc, on fait que garder froid et la glace fond tranquillement afin que l'eau passe au travers des crevettes, juste pour la garder, comme je dis, dans le même état qu'elle était dans la mer.
Il ne faut pas que ça gèle, autrement.
Non, on ne veut pas que ça gèle parce que ça brise la qualité de la chair. Ça ne gèle pas, ça doit demeurer très froid et pas trop écrasé, et ainsi de suite.
OK. Après ça, donc, quelques jours en mer, on revient. On débarque ça où, la crevette? Aux usines ou sur le quai?
Des débarquements, comme d'autres. Présentement, on est à Crevette du Nord. C'est les débarquements... C'est Quémère qui nous débarque. C'est ça, Quémère? Oui, Quémère qui nous débarque. Fait que nous autres, ça a cheminé ensuite à l'usine en Saint-Griffon.
OK, on voit ça par camion. Est-ce que c'est long de décharger un navire?
Ça dépend toujours de la quantité que tu as. Ça peut durer, si en dans une journée, comme nous autres,
6 heures, puis comment on fait pour ramasser ça, la crevette, dans le navire?
En fait, durant la semaine, durant le voyage de pêche, les captures ont été mises dans des sacs d'à peu près 25 livres. Puis lorsqu'on arrive au débarquement, bien, ils accumulent les sacs dans la cale. Les gens de débarquement, ils accumulent les sacs dans une espèce de baril qu'on sort du bateau avec une winch, puis c'est comme ça, un baril à coûte de 350 livres à peu près.
Donc ça veut dire que quand vous pêchez, les gars à bord qui travaillent avec vous, là, faut en sacher ça à mesure, quoi?
Ben oui, c'est en plein ça. Quand on sort de l'eau le chalut, au bout du chalut, il y a ce qu'on appelle un cul-chalut, la poche, communément appelée comme ça. On ouvre la poche dans une boîte de triage, fait que tout de suite, on remet le chalut à l'eau. Mais pendant qu'on pêche, les gars sont en train d'effectuer le tri des captures, c'est-à-dire séparer les petits poissons indésirables qui ne sont pas des crevettes, parce qu'on ramène juste des crevettes. Et ils mettent les captures dans des sacs d'à peu près ça, 25 livres, qu'on va ensuite mettre dans la cale et saupoudrer de glace.
Puis est-ce que c'est pesé quand ça arrive, on sort ça, donc c'est pesé, on sait...
Les débarquements, c'est chaque livre est pesé, chaque crevette qui sort du bateau est pesée.
Puis ça s'en va à l'usine, donc vous savez combien vous avez pêché puis combien vous avez vendu à l'usine.
On sait approximativement, avant d'arriver au quai, pareil, on calcule nos poches, on calcule tout, mais c'est plus précis à l'usine, au débarquement.
Les voyages de pêche, vous en faites combien comme ça dans une saison?
Ça dépend du jour de la saison, ça dépend des quotas, des performances, ça dépend... Vois-tu l'année passée, environ 22, je crois? 20 ou 22 voyages, fait que... J'ai pris un million, quasiment 1 300 000, fait que ça dépend toujours...
1 300 000 livres de crevettes?
Ouais.
Ça fait de la crevette, ça?
Ça fait de la crevette. Ça fait beaucoup de crevettes.
Donc, mais une vingtaine de voyages donc dans l'année, ça s'étire comme ça. Ça commence le 1er avril, donc ça peut s'étirer jusqu'au mois de... Ben, on dit la date, la fin de pêche, et au mois de décembre, on se rend pas là.
Non, on se rend pas là parce que les quotas ont été capturés avant. Mais c'est ça, ça dépend. C'est encore très personnel, dépendamment du quota de base que tu as, à savoir, tu vas-tu faire de la location supplémentaire? Quelle est ta performance en plus? Donc, ça s'étend autour du 1er avril, idéalement. Puis une fois que c'est le conflit est réglé avec les... Pas le conflit, mais les ententes réglées avec les usines, en fait, sur les prix, on part, puis ça va s'étirer jusqu'à la fin des quotas, c'est-à-dire septembre, octobre ou novembre.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée pour que... Ben, on sait qu'il y a eu une baisse de capture, là. Est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on sentait une diminution comme ça des captures? On parlait de 15 % même au début, 30 % c'était comme assez étonnant.
Bien, c'est pas la première fois. C'est une ressource naturelle, donc il y a des fluctuations, bien sûr, c'est triste. On la sentait venir un peu parce qu'on a vu la performance diminuer l'an passé. C'est surtout attribuable, comme les scientifiques nous l'expliquent aussi, à la température de l'eau qui est plus élevée, puis aussi, bien sûr, au retour du fameux poisson de fond, qui est un prédateur.
Est-ce que quand la température change comme ça, la crevette, ça se tient dans de l'eau plus froide, donc si ça réchauffe, elle est plus difficile à trouver?
Oui, bien, c'est la crevette nordique. On cherche l'eau froide. Moi, qu'il y a d'eau froide, ça va peut-être finir par... s'adapter, on sait pas comment que même personne ne sait encore comment que ça va, ils vont réagir, même les scientifiques,
est-ce qu'elle est plus profonde? Est-ce qu'on peut aller profond avec un chalut?
On peut aller où qu'on veut. Est-ce qu'il y a carrément ça? Est-ce qu'elle va aller on va y être.
Ouais. OK, donc on peut vraiment aller à des profondeurs, là.
Ah oui, dans des profondeurs et des altitudes. Si un jour la crevette se ramasse d'un sapin, on va y aller.
Boy, OK. Alors donc, ça nous donne une idée un peu du voyagement, de la façon dont ça marche. Sur le bateau, les équipes, là, vous travaillez ensemble en mer 24 sur 24. Comment ça fonctionne? Y a-t-il une rotation? Y a-t-il du repos? Est-ce qu'on dort? Parce que là, on n'arrête pas le bateau durant la nuit, là.
Rotation, repos, c'est très intense en avril, généralement. Le travail est plus difficile, plus laborieux. Donc, les hommes de pont travaillent à l'extérieur. Ils travaillent au niveau du tri des captures puis de la mise en cale.
Tu navigues combien d'heures? Puis après, ça prend un repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une relève?
C'est une rotation, c'est... la plupart des gars ont des classes où la plupart du monde peut prendre le bateau.
Puis on s'arrange pour prendre la mer assez en forme physiquement aussi.
Comme ça, ce que j'entends, il y a une préparation physique, il y a beaucoup de travail manuel, là.
C'est ça, on fait pas exprès d'être en mauvais état. On fait des blagues, mais vraiment, on essaie de garder nos énergies quelques jours avant la pêche, se reposer un peu, parce que ça va être tout un sprint en avril.
Quand on pêche, est-ce qu'il y a de la compétition au large? T'sais, parce que là, vous dites, on a un secteur, on pêche, mais là, si vous trouvez de la crevette, ça se parle-tu? Puis là, est-ce que tout le monde arrive à la même place ou on garde ça? Comment ça...
C'est quand même si c'est des quotas individuels, même s'il y a de la fraternité, puis c'est assez amical, disons que c'est toutes des entreprises individuelles, puis c'est, comment je te dirais bien, pas que c'est la guerre, mais c'est vraiment individuel. Il y a quand même quelques communications entre amis, des communications cellulaires, quoi que ce soit, mais généralement, chacun fait sa propre pêche, il s'occupe de ses propres captures. Ouais. Donc, c'est plein de petits secrets.
Il y a des petites affaires, des fois, vous êtes à... Parce que, bon, parce que si vous en... Ça doit se parler quelque part. Si vous arrivez à un moment donné avec une cargaison,
« Ah, il est allé dans le coin de cette île, ça a l'air que ça marche, on va tout aller là. »
Bien, c'est ça. On remarque que tous les bateaux partent vite, puis on remarque qu'est-ce qui rentre, puis on va essayer de s'imaginer où on a vu ce bateau-là durant le séjour, puis peut-être essayer de reproduire un trajet ou quoi que ce soit. En tout cas, mais c'est comme ça. Lorsqu'on fait une bonne capture, on n'a pas la bonne habitude de le crier sur radio, non.
Dans le fond, c'est un peu comme une chasse au trésor, cette histoire-là. Là. Les gars, vous partez, puis on va à l'aventure, puis...
C'est encore mieux. Plus t'as d'expérience, mieux que ça, c'est sûr. C'est-à-dire, comme Dave, il commence mal à vieillir, c'est bon. Il a vu c'est où ce que c'était, puis... Moi, je commence, fait que je le suis.
Mais il y a quand même de la camaraderie pas mal. Là, je vous vois les deux, là, vous avez du plaisir. Est-ce que, c'est ça, il y a des secteurs traditionnellement où vous savez qu'à telle position là, sur les cartes, ça peut se passer là?
Historiquement, on s'est quand même fait des habitudes. Hein? Chaque printemps, la ponte peut se passer là. Un peu plus tard dans l'année, il va y avoir un tel déplacement. Par contre, depuis l'arrivée du poisson de fond, on est vraiment obligé de se réhabituer comme on dit ici sur le quai, ça ressemble plus aux autres années. On dit ça fait 3 ans qu'on répète la même chose depuis l'arrivée, entre autres, du petit Sébastien. Là. Lui, il nous a joué tout un tour. Je ne sais pas s'il a effrayé la crevette ou quoi que ce soit, ou que c'est la crevette qui a pris un autre comportement, mais nos histoires puis nos vieux cahiers sur lesquels on se penchait d'habitude, là, ça ne marche plus toujours. Là.
Est-ce que ça vous inquiète? Pour l'avenir, parce que vous avez des navires, il faut les payer. Là, il y a une diminution de crevettes. C'est-tu inquiétant?
Oui, c'est sûr que c'est inquiétant. Regarde partout. Un site, c'est diminution de 15% dans 3 des 4 zones, les principales. Ben, les bateaux du site pêchent. Comme là, il y a d'autres zones aussi qui ont baissé beaucoup. J'ai entendu dire Terre-Neuve, une des plus grosses zones de pêche au monde, la 6, c'est 62% de diminution. On voit que ça travaille différemment. C'est inquiétant.
Vous parlez de d'autres zones et tout ça. Est-ce que les permis, ça permet aux gens de d'autres provinces de venir pêcher aux mêmes endroits que vous? Là? Comment ça fonctionne? Ou c'est juste les pêcheurs de Rivière-au-Nord, du coin ici?
Ben, ton permis de pêche, en fait, c'est un droit d'accès à une zone de pêche. Il peut y avoir des propriétaires d'une autre province qui ont accès à nos zones de pêche. Je pense, par exemple, facilement... Nos confrères du Nouveau-Brunswick qui ont accès à des zones de pêche qui se situent plus au Québec. Mais ça, c'est connu, c'est comme ça, c'est habituel.
La vie à bord, bon, on parlait un petit peu tantôt de travail et tout ça. Est-ce que à un moment donné, ça va bien au début, puis à un moment donné, ça peut être plus compliqué? Est-ce que ça va bien tout le temps?
Mais c'est une famille. Je passe plus de temps avec mes gars qu'avec ma famille, ma blonde, n'importe qui. Fait que je passe la moitié de ma vie avec ces gars-là. Fait que si tu t'entends mal, tu t'entends mal. Fait que tu t'organises pour pas que ça te teffe comme ça. Non, moi, j'ai pas un mois de dire. L'équipage qu'on a, on s'entend tous bien à bord. Fait que on a du plaisir, on a du fun, ça rit.
Une gang de gars ensemble qui partent à la pêche.
Une gang de chums qui s'en va à la pêche.
C'est sûr que l'élément plaisir n'est pas là de la même façon qu'une gang de gars qui s'en va à la pêche à la truite une fin de semaine.
Ou à la chasse.
C'est ça. Mais c'est d'où l'importance de bien choisir nos employés aussi, quand on est des propriétaires. Ouais.
Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent à bord de bateaux de pêche de crevettes de mémoire, avez-vous?
Je suis pas certain. À Saint-Anne-des-Monts, il y en a déjà eu une dame qui faisait partie d'un équipage par là, mais par ici, non, c'est pas commun.
Bon, alors moi, ce que j'aimerais savoir en terminant, les gars, des anecdotes de pêche, parce que tout le monde en a sûrement.
Moi, j'ai une petite anecdote qui rassemble les deux éléments. C'est que un jour, mon ami Sébastien est en difficulté. Il y a un gros problème hydraulique à bord, ce qu'on appelle le power take-off, puis il peut plus du tout lever le chalut, puis il peut plus du tout bouger parce que c'est bloqué, puis ça va pas bien. Ça fait que puisque j'ai de l'équipement similaire à lui, en bon samaritain, je décide de me déshabiller puis enlever une partie de ma pompe hydraulique puis d'aller y porter le matériel. Mais le temps qu'on est tous dans la salle des machines, ça dure quelques minutes, mes copains me font signe sur la caméra. Je descends les rejoindre à la salle des machines. Le temps que je suis en bas pour qu'on regarde quelque chose, comment démancher l'appareil, je remonte en haut puis je m'aperçois qu'on est arrêté. On vient de perdre tout le fond du chalut parce que à l'endroit où je suis passé, il y avait des roches où le fond était rough. C'est fait que pour aller aider Sébastien, c'est moi j'ai été obligé de rentrer avant lui parce que mon chalut était détruit solide.
Tu as perdu donc le filet, c'est le filet là, qu'on ouais. appelle. Tu l'as perdu complètement.
Là, je l'ai pas perdu complètement, mais j'ai perdu le fond. Ouais, okay. C'est comme
ça a tout arraché.
Juste un devant de culotte là. Ouais, c'est ça. Okay. Mais j'ai aidé Sébastien. Ouais, c'est ça.
Après ça, au moins, ouais, c'est ça. T'as réglé son code hydraulique parce que de toute façon, toi, t'en avais plus besoin.
Non, exactement. Je m'en allais à la maison me réparer. Ouais. J'espère qu'il s'en rappelle d'ailleurs. Ouais,
parce que c'est pas facile en mer, là, ce temps-ci de l'année. Puis il peut y avoir du vent, un peu de tempête. Ça doit être ce qui arrive des fois qu'on est vraiment là, que ça brasse puis que c'est compliqué, c'est sûr.
Ben oui, ça fait partie des éléments qu'on a à rencontrer puis à gérer, bien sûr. Mais oui, c'est pas facile. Quand c'est ton tour d'aller te reposer puis que il y a du mauvais temps en plus, ben c'est pas comme dormir à l'hôtel Rimouski.
Oui, parce que moi, j'ai pas le pied marin. Je suis pas sûr que dans une tempête, j'aimerais ça. Mais on s'habitue, j'imagine, nous aussi, peut-être que... Au début, quand on commence, ça branle, puis on n'aime pas ça, mais avec le temps...
Oui, la plupart des gens ressentent un étourdissement, bien sûr, au début. Hein. Ça fait quelques mois que tu es, entre guillemets, immobile là, sur un plancher normal. Sauf que là, vous parlez un cordonnier mal chaussé, je suis un des seuls de la flotte qui est encore malade.
Oh! Ah, OK, ça t'arrive d'être malade encore, le mal de mer?
Oui, oui, ça m'arrive d'avoir le mal de mer, mais... Je suis le seul dans la famille qui n'a pas de bedaine. Ça doit être pour ça.
Oui, parce que moi, je suis là, on parlait des tempêtes, puis un peu de... Puis là, je suis sur le bateau, il n'y a pas de vagues, mais je sens, moi, quand même, un petit
ça
mouvement.
Bouge, là, ça bouge. Que ça
bouge. C'est pas facile. Hein. Ça, je disais tantôt, c'est pas un métier facile, aller en mer puis faire la pêche ou à la crevette.
Les premiers voyages, c'est de se placer... Ben, Dave, c'est la saison qu'on plaît, il est malade. mais nous, après le premier voyage, c'est se faire le pied, puis écoute, tu commences à connaître le bateau. Ben, on connaît le bateau, mais que se faire? Quand même 3-4 mois, on est arrêté. Fait que de se refaire le pied, c'est une semaine. Une semaine, la plupart du temps, les gars, même deux, les gars, c'est en replacé.
Ouais, au début, ouf, on file un peu moins bien des journées, parce qu'on doit arriver avec des journées de tempête, là, ça brasse pas mal.
Oh oui, c'est...
Ben, le golf, c'est pas de la petite vague. Là.
Non, c'est ça. Quand il fait beau, c'est le fun. C'est plaisant. C'est un plus beau métier au monde, on va dire.
Comme
aujourd'hui, c'est le plus beau métier au monde, au large, ouais. Gaming de gars. On travaille, il fait beau, mais c'est quand... C'est l'eau de l'envers de la médaille qui...
La tempête, là, ou quand il fait mauvais, les vagues, ça ressemble à quoi au large dans le golfe?
Oh mon Dieu, ça dépend toujours de la tempête. En haut, d'autres ont quelque chose en eux, là. Ça dépend toujours d'où ce qui vient, bien, l'abri, puis tout.
Rappelles-tu d'une tempête, toi, Sébastien? Une tempête, vous avez frappé que c'était vraiment mauvais, les vagues de combien de pieds?
Oh mon Dieu, oui, la première saison qu'on a faite, on a pogné une tempête, il faisait vraiment, vraiment pas beau. Là, une tempête comme ça, on s'organise pour plus être là. C'est en haut de 45-50. Fait que là...
45-50 quoi?
Nœuds.
Les vents.
C'est quoi? Les vents ou les vents?
C'est de nœuds, c'est du vent.
C'est des vitesses.
Ouais.
Ça peut représenter quoi en kilomètre heure quand on dit ça? Hein?
C'est 1,852 mètres. Ouais, c'est ça.
Donc, c'est du 100 kilomètres.
Par 1,8, donc on est... Oui, oui, c'est ça, près de 100 km/h. Ouais.
Les vagues, ça ressemble à quoi? Des vagues de 10, 12 pieds?
Je sais pas, mais on les regarde s'en venir en montant, là. Oui, c'est ça.
Mais quand ça frappe, ça doit... Oui, hein? Ouf! Puis ça doit frapper, ça doit être... Oui, hein?
Alors, c'est sûr, c'est un élément de la nature assez fort, la mer, hein? On s'en aperçoit quand on essaie de le défier.
Le commun des mortels qui ne connaissait pas, évidemment, la pêche à la crevette, toute cette dynamique-là autour, souvent les gens vont dire « Ah, les pêcheurs de crevettes, finalement, font la grosse vie, ont des gros salaires, tout va bien, ils se plaignent le ventre plein. » On répond quoi à ça quand on est pêcheur et que vous venez de nous dire tout ce que vous avez dit aujourd'hui?
Ben, je trouve ça le fun que vous en parlez parce que souvent dans l'hiver, des gens qui m'abordent en me disant des choses comme ça, je les invite sincèrement à venir faire un petit tour. Essayer dans le mois d'avril. D'après moi, il faut être passionné pour passer au travers d'avril là, parce que physiquement, c'est dur. Les gars qui travaillent sur le pont, ils l'ont pas facile. Ils vont lever de grosses charges à tous les 24 heures, ils vont lever très lourd, puis ils s'exposent au froid, la mer, toujours un houle qui vient le casser dans le cou, puis tout ça. Non, c'est pas facile. Il faut aimer ce qu'on fait. La plupart des gens qui se retrouvent sur un bateau à ce temps-ci de l'année, c'est des passionnés.
Qu'est-ce que tu...
Venez essayer une semaine. Avec une semaine, au mois d'avril, on s'en reparle après. Ouais. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Ils en reparlent après. Oui.
Ils ne le feraient pas après.
Là, non, ils l'ont. Non. Il y en a plusieurs que je
fais. C'est dur au mois d'avril, mais après ça, ça se replace, là, mais...
C'est que c'est la mode. Il peut faire beau, puis dans deux heures après, c'est la tempête. On contrôle pas ça.
Et voilà pour les gens qui pensent que vous avez une belle vie. La belle vie, c'est après.
Ah, c'est ça. On a l'hiver. On n'a pas un. Tu sais, on est prêt. L'hiver, on ne faut pas se cacher. La plupart du temps, on n'a pas grand-chose à faire, puis ça. C'est saisonnier. Ouais. Mais on n'a pas d'été.
Ben, merci à vous deux, Dave Coton. Merci.
Merci.
Et Sébastien Paris. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci beaucoup.